nous choisissent, nous désignent à moi. Et ce Dieu, Yahvé, n'est pas du tout d'accord. Il veut avertir le peuple, à leur dire.
On est ensemble. Hein? On est ensemble.
Et il va leur dire, mais.
Ah, c'est Michel Gouin qui nous embrasse tous sur le chemin. Elle est avec nous, hein, je vous le dis. Une pensée pour vous tous du chemin qui se passe très bien.
Elle est en Espagne, là.
Ah, ça, j'ai pas la faim.
Ça alors, arrive, ça j'en étais où là ?
T'en étais à. Alors, t'en étais à Samuel.
À Samuel, voilà. Alors, il est dit, mais il nous faut un roi, ça suffit comme ça, c'est le foutoir, on veut une organisation solide. Et ce Yahvé lui dit, mais attention, vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir un roi. Hein ? C'est quand même très proche de sacré des empires. Mm-hmm. Hein ? Si vous allez avoir, si vous avez un roi, très rapidement, vous allez être sous la domination. Et il va y avoir une hiérarchie. Il y aura des dominants et des dominés. Et ce Yahvé met en garde le peuple contre ce choix. Les risques. Le peuple dit oui, c'est très bien, mais n'empêche, il nous en faut un quand même. Il y a un risque, mais il nous en faut un quand même. Yahvé cède et Yahvé leur donne un roi. Donc, il va y avoir l'instauration d'un gouvernement sous la forme d'une royauté. Bon, le premier roi, ça va être une catastrophe. C'est le roi Saül, il est parano, enfin bon. Et finalement, il va être destitué. Et un autre va émerger, ça va être David. Vous connaissez toute l'histoire de David. Et ce David va être un très bon roi. Mais il ne fait pas tout. Hein. Il va quand même fauter par rapport à la loi, puisqu'il va prendre la femme de son général en chef. Il va s'arranger pour que son général meure, pour lui prendre sa femme. Et ça, où Nathan, le prophète Nathan intervient, bref. Mais à part ça, ce fut un bon roi. Et en quoi il fut un bon roi? Parce qu'il ne s'est pas pris pour un roi. Comme disait Lacan, hein, il disait, quand vous avez quelqu'un avec vous qui vous dit « je suis le roi », vous dites « c'est un fou ». Mais si un roi vous dit qu'il est roi, mais il est tout aussi fou. Il est tout aussi fou. C'est se prendre pour un roi, se prendre au sérieux quand on a ce poste de la royauté, c'est de la folie. Or, une particularité de ce David, c'est qu'il ne va pas se prendre pour un roi. Il va assumer sa charge, mais en même temps, à travers tous ces malheurs qu'il a, eh bien, il se prend tellement peu pour un roi que sa femme le trouve qu'il est vraiment.
Ah oui.
Il n'a pas de tenue, il chante là, dans la rue, à moitié à poil. Donc il n'est pas. Il ne se prend pas pour un roi. Et il y a le prophète Nathan.
C'est la fin du message de Michel.
Et le prophète Nathan lui fait à ce moment une promesse, après l'avoir bien engueulé pour tout ce qu'il avait fait avant, le promesse qu'il y aura, jusqu'à la fin des temps, une royauté éternelle. Et que de sa descendance, il y aura une royauté éternelle. Étrange promesse quand même, hein. Et alors, eh bien, il a un successeur, la personne de Salomon, qui va construire un très grand temple. Hein. Et puis, ses rois et les successeurs de Salomon, le fils de Salomon, va commencer très rapidement à tomber dans la tendance naturelle des rois, qui est celle d'être un despote. Et donc les descendants, le fils de Salomon va jouer au despote. Et ça va provoquer une scission, une rébellion et une division, un schisme au sein de ce peuple d'Israël. Vous voyez, là, il y avait une royauté pour établir, restaurer l'ordre, hein, éviter l'anarchie. Et puis, le comportement du roi fait que ça va provoquer un schisme. Donc, il va y avoir deux peuples. Le peuple du Nord et le peuple du Sud, qui sont quand même très proches, très frères, hein, mais frères, mais à la fois par moments alliés et d'autres moments en guerre les uns contre les autres. Et donc cette période-là, qu'on appelle la période royale, qui va donc de l'an 1000 à l'an 570, hein, et le peuple, là, va, au cours de cette période, va abandonner, là aussi, la loi, le culte. Hein, le culte va être mélangé. Même les rois d'Israël vont faire des idoles, vont faire des cultes à Astarté, à Baal. Ils veulent ménager la chèvre, le chou. Bon. Et alors, là, et surtout que du fait de cette royauté, il va y avoir des dominants et des dominés. Il y a des gens qui vont s'enrichir au détriment d'une population dominée et pauvre. Donc ça crée de l'injustice. Alors là, va s'élever en dehors de l'institution des personnes qui vont dénoncer ces dérives. Ça va être les prophètes. Hein, les prophètes qui, à partir de l'an 800, le premier prophète, ça sera Amos, et vont commencer à dénoncer ces dérives pour sauver le peuple, finalement. Hein, parce que ces dérives, le fait qu'il y ait dominant-dominé, comme il avait l'a dit tout à l'heure, vous allez disparaître. Si vous fonctionnez par la rivalité, par la domination, eh bien c'est la mort. Vous disparaîtrez. Donc ces prophètes veulent avertir le peuple qu'ils vont, s'ils ne changent pas leur façon de faire, eh bien ils vont disparaître. Et alors, donc cet appel des prophètes, je saute plein de choses que je voulais dire avant, mais bon.
6h15.
6h15, donc on avance. Alors, les prophètes vont parler du péché d'Israël. Alors, le terme de péché, qu'est-ce que ça recouvre? Ce sont des dérogations à la loi. Alors, il y en a deux grands types de péchés. Deux grands types de péchés. Faut bien se libérer un peu de nos notions à nous, que nous avons de péché. Les 10 péchés capitaux, il ne s'agit pas de ça du tout. Enfin, pas tout à fait. Les péchés d'orgueil ou de... Non, il y a deux grands axes de péché. C'est l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'on se fait une représentation de Dieu. Et cette représentation est un retour à sacré primitif. Justement, sacré primitif, justement, ce sacré dont Yahvé a voulu sortir le peuple. Il a voulu sortir de ce sacré impérial. Et or, en fait, la tendance naturelle, c'est de revenir par des représentations de Dieu. Et avec ces représentations. Cette représentation de Dieu se faisant accompagner de magie. Hein. On fait des idoles, on construit, et puis on fait des prières, et on demande des tas de choses, des actions un peu magiques autour de ça. faut bien voir là aussi que c'est, cette idolâtrie, elle nous poursuit encore. Hein? Elle nous, y compris dans le christianisme. Hein? Y compris dans cette, vous voyez, au Moyen-Âge, chaque saint avait des fonctions particulières. On allait prier Saint-Christophe si on avait perdu un objet, on allait prier, vous voyez, tout ça relève.
C'est Saint-Antoine de Padoue.
Saint-Antoine de Padoue, enfin j'en sais rien. Enfin, chaque saint avait des fonctions spécifiques, et dans un cas, chaque cas donné, ben, on priait tel ou tel saint. Ça relève. Mais c'est pas, je veux dire, il faut faire attention, il ne faut pas le voir d'une façon trop péjorative, mais ça relève du paganisme. Mais ce paganisme, il fait partie de notre psychisme. Hein. Donc, il faut à la fois s'en libérer, hein, mais pas juger ceux qui sont en cheminement. Hein. Vous voyez, je dis ça parce que quand il va y avoir le schisme chrétien entre protestants et catholiques, hein, c'est le gros reproche que vont faire les protestants aux catholiques. Hein, c'est vous êtes dans l'idolâtrie. Hein. Donc, on va supprimer toutes les statues dans les églises, la Vierge Marie, enfin, toutes sortes de... qui relèvent, dans la pratique, peut-être, d'une forme plus ou moins larvée d'idolâtrie. Et là, le protestantisme va vouloir passer en force. Hein, et éliminer. Et là, en passant en force, on retombe dans la rivalité. Hein, donc on va retomber dans le conflit et la rivalité. Hein, alors que ce qu'il faut, c'est une éducation de l'intérieur. Hein, naturellement, l'enfant est dans la pensée magique. Freud le dira très bien, d'ailleurs. Hein, ça fait partie de la structure du psychisme. Donc cette pensée magique, elle est en nous, elle est dans nos réactions, dans notre psychisme, peut-être archaïque ou infantile, ce que vous voulez, mais il est présent. Hein? Et c'est ce psychisme des profondeurs qu'il faut convertir, et non pas par la force, en disant ça c'est nul, allez, liquide. Non pas par la force, mais par une transformation intérieure. Hein? Donc c'est toute cette transformation intérieure qui s'opère, que la pédagogie biblique va essayer d'opérer. Hein. Voilà, donc il y a bien ces prophètes vont dénoncer cette pensée magique, hein, cette idolâtrie qui est la négation de la relation à Dieu, puisque ce Yahvé a voulu désaliéner le peuple du pouvoir. Hein? Donc, pour rentrer en relation, c'est-à-dire que la relation d'amour, d'affection, il n'y a pas d'aliénation de la personne, hein, dans la relation. Or, naturellement, spontanément, le peuple va retomber dans cette aliénation. Hein? Parce que c'est plus facile. Hein? C'est plus facile que la parole, que... Bon. Donc, ça, c'est le premier reproche qui va être fait.
C'est le deuxième.
Et je parle de l'idolâtrie, c'est le premier.
Hein. Tu
attends le deuxième. Mais avant de terminer et d'attendre le deuxième, je veux dire que la réaction par rapport à cette idolâtrie, ça va être une réaffirmation du monothéisme. Il n'y a qu'un Dieu. Hein. Toutes vos idoles, toutes vos toulas, c'est des constructions. Et donc, les prophètes vont se moquer. Se moquer de ses idoles. C'est des constructions de vos mains, vous mettez tout votre espoir dans ce que vous avez construit. Hein? Et en fait, non, c'est rien, hein, c'est du néant. Alors qu'il faut se construire dans la relation, dans la relation avec Dieu. Voilà, ça c'est le premier péché. Et le deuxième péché, c'est l'injustice. L'injustice, c'est-à-dire, c'est la négation, hein, de la relation, du bonne relation des hommes entre eux. Alors, les prophètes, alors là, il y a toute une liste, les prophètes ne vont pas arrêter. Non-versement des salaires. Alors là, Jérémie, Malachie, vont dénoncer. Pas verser les salaires. La fraude. Tout ça, ce n'est pas du tout d'actualité. Hein. La fraude chez Amos, chez Osée, chez Miché, dénonce la fraude. Ils dénoncent la vénalité des juges qui se font acheter. Hein? Miché, Esaïe, bon, plusieurs fois. Le refus d'affranchir les esclaves. Parce qu'il y avait dans cette loi, l'esclavage était dans la vie de ces sociétés, existait. Hein? C'était, ça faisait partie de la culture. Mais dans la loi, il est prévu que tous les 7 ans, il y aurait une libération des esclaves.